cheminement d'un incrédule. Depuis sa repentance jusqu'à la scène du Seigneur. Nous allons lire d'abord dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, et au début du chapitre 13. Chapitre 12, verset 58. Quand tu vas avec ta partie adverse devant le magistrat, efforce-toi en chemin d'en être délivré, de peur qu'elle ne te tire devant le juge. Le juge te livrera au sergent, le sergent te jettera en prison. Je te dis que tu ne sortiras point de là, que tu n'es payé jusqu'à la dernière bite. Or, en ce même temps, quelques-uns se trouvaient là présents qui lui racontaient ce qui s'était passé touchant les Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Et Jésus répondant leur dit, croyez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les Galiléens parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. Ou ces 18 sur qui tomba la tour dans Siloé et qu'elle tua, croyez-vous qu'ils fussent plus coupables que tous les autres qui habitent Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. Et il disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Et il vint y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Et il dit au vigneron, voici 3 ans. Que je viens chercher du fruit sur ce figuier, je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi aussi occupe-t-il inutilement la terre? Et répondant, il dit, maître, laisse-le cette année aussi, jusqu'à ce que je l'ai déchaussé et que j'y ai mis du fumier. Et peut-être portera-t-il du fruit, sinon après tu le couperas. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, verset 24. Si tous prophétisent et qu'il entre quelqu'un crédule ou quelqu'un homme simple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont rendus manifestes. Et ainsi, tombant sur sa face, il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est véritablement parmi vous. Les secrets de son cœur. Peut-être que quelqu'un ici, bon, ça peut être un jeune garçon, une jeune fille, ça peut être aussi un homme de 60 ans, 70 ans, une femme, a peut-être quelque chose dans son cœur. Donc il serait bien gêné qu'il soit dévoilé. Peut-être, cher ami, qui est encore mort dans vos fautes et dans vos péchés, peut-être avez-vous une tache dans votre vie. Quelque chose que vous essayez de dissimuler, d'oublier, pensant que l'oubli va enlever cette tâche, pensant que le temps efface ce qui a été fait. Mais, cher ami, si vous êtes aujourd'hui ici, avec ce secret dans votre cœur, c'est certainement parce que Dieu vous attend ici. Il savait que vous alliez venir. Il avait quelque chose à vous dire. Et ne vous le dissimulez pas, même si vous avez 12 ans, 13 ans, pensant que demain il sera encore temps de s'occuper de cette question-là fondamentale, d'avoir la question du salut. Même si vous avez 70 ans, satisfait de votre carrière, honnête, satisfait de l'approbation de vos voisins, satisfait de tout ce qui a été votre vie, ne vous faites pas d'illusions. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que Dieu a à vous dire quelque chose. Il a à vous dire quelque chose. Il a à vous dire de vous repentir. Il est clair que dans la lecture que nous avons faite dans l'évangile de Luc, la pensée principale, c'est la repentance. C'était le message de Jean le Baptiseur, avec le baptême de la repentance qui accompagnait cette annonce. Et c'est ce que le Seigneur dit dans ces lignes concernant spécialement le peuple juif, le peuple terrestre, qui chemine avec sa partie adverse, c'est Dieu, auquel le peuple Israël a des comptes à rendre, envers lequel il a à se repentir. Et le Seigneur conseille à ce peuple, tout en cheminant, tout en étant en chemin avec cette partie adverse, d'en être délivré. Comment ? Par la repentance. Et c'est la pensée qui fait suite avec ce premier paragraphe du chapitre 13, qui met en évidence par ce double appel du Seigneur, si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière, auquel fait suite cette parabole, qui va bien avec la repentance, parce qu'elle met en évidence la patience de Dieu. Il y a d'un côté la repentance, il y a d'un autre la patience de Dieu. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Au contraire, ce sont deux pensées complémentaires. La repentance, littéralement dans cette portion, concerne le peuple d'Israël. C'est vrai. Mais la repentance concerne l'homme auquel nous nous sommes adressés, la femme, le petit enfant, le jeune garçon, la jeune fille, et puis le croyant, et puis l'assemblée, et puis les assemblées. La repentance est un vaste sujet qui convient à tout homme, depuis sa conversion jusqu'au bout de sa carrière. Se repentir. C'est ce que Dieu attend et il attend avec patience. Pierre le dit dans sa deuxième épître au chapitre 3, estimez que la patience de notre Seigneur est salut. N'est-ce pas qu'elle est salut? Dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3, le prophète fait l'énumération de tout ce qui ne va pas dans le peuple. Magiciens, adultères, ceux qui jurent faussement. Et puis, il ajoute, lisons-le de manière exacte, dans Malachie 3, tout cela qui ne me craignent pas, fin du verset 5, l'Éternel des armées, car moi, l'Éternel, je ne change pas. Et vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas conçus. Nous ne sommes pas conçus. Disons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, justement, qui est l'objet de l'étude, Dieu est un feu consumant. Mais voilà ce qu'est cette patience de Dieu. Voilà ce qu'est sa miséricorde. Voilà ce qu'est son amour. Nous savons bien que le livre du prophète de Malachie commence par « Je vous ai aimé », c'est à la troisième ligne. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel des armées. » Un amour constant. L'amour invariable. L'amour de Dieu, l'amour de Christ. Nous pouvons avoir des hauts et des bas, commettre des fautes, des manquements, mais lui ne change pas. Et c'est un amour qui fend le cœur, qui nous brise, qui nous subit. Un enfant qui a commis une grave bêtise craint ses parents, il se cache. On connaît des enfants qui ont fugué parce qu'ils avaient une mauvaise note à l'école, et puis tout d'un coup, ils se rendent compte. Cet enfant se rend compte. Peut-être parce que c'est la mère qui l'a derrière et qui le fait comprendre que ses parents l'aiment toujours. Il n'y a rien de tel pour faire fléchir un homme, pour faire fléchir un enfant, de savoir que Dieu nous aime, que Christ nous aime. Chère âme à laquelle nous sommes adressés tout à l'heure, jeune garçon, jeune fille, Dieu vous aime. Et c'est pour ça qu'il nous attend ici ce soir, pour vous dire qu'il vous aime et parce qu'il vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils et bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, la patience de Dieu. Nous en avons besoin et nous sommes émerveillés de voir ce qu'a été cette patience dans toute l'histoire du peuple d'Israël, puisque nous faisons allusion au prophète Malachi, jusqu'au bout. Et c'est le même amour, c'est la même patience dont nous sommes les objets. Alors, revenons à notre sujet d'Évangile de Luc, il y a la repentance. Mets-toi en accord avec la partie adverse. Repentez-vous. Et d'un autre côté, il y a la patience. Remarquons que dans le premier paragraphe de ce chapitre 13, le Seigneur Jésus est parfaitement au courant des événements contemporains. On vient de lui rapporter ce qui est survenu à ces Galiléens, ils offraient des sacrifices, Pilate, dans un geste cruel et pour un motif inconnu, les a fait mettre à mort, et leur sang s'est mêlé au sang des victimes qu'ils offraient. Quelle scène troublante. Alors, le Seigneur rappelle aussi quelque chose dont il était au courant, c'est qu'une tour dans Siloé, qui était un quartier de Jérusalem, s'était abattue et avait écrasé 1000 personnes. Alors, la pensée juive, c'est que si un tel accident était arrivé, c'est que derrière, il y avait un péché. Et que c'est ce péché qui avait engendré cet accident et de la part de Pilate et par cette tour qui s'est de la même manière que les disciples dans l'évangile de Jean, chapitre 9, en présence de cet aveugle depuis sa naissance, disent au Seigneur, voyons, lequel a péché? Est-ce ses parents? Est-ce que c'est lui? Non, non, vous dites. Ce n'est pas là le problème. Et remarquons en passant que souvent, nous pensons de la sorte aussi. Pensons que si quelqu'un a une maladie, si quelqu'un a un accident, c'est parce qu'il a péché. Ça peut être que pas. Mais je voudrais citer dans l'épître de Jacques au chapitre 5, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, Jacques 5, verset 14, et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Nous ne dirons rien sur ces deux versets, mais nous arrivons à ce, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est une éventualité. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas parce que ce quelqu'un d'entre vous est malade que forcément cela découle d'un péché qu'il a commis. Soyons prudents dans nos appréciations, dans nos jugements les uns à l'égard des autres. Nous sommes vite tentés de dire, voilà, le gouvernement de Dieu, le jugement de Dieu est sur ce croyant, sur cette famille. S'il a commis, ça peut être pour un tout autre motif que ce frère est malade. Ce peut être justement Dieu, notre Père, qui agit à son égard pour le former, pour prévenir tout écart, une discipline formative, une discipline préventive, ou encore pour qu'il puisse participer à la sainteté, c'est ce que nous verrons dans l'étude au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, mais pas forcément parce que ce croyant a fait. Dieu, dans son amour, nous fait passer par des souffrances, par des afflictions, afin d'atteindre le but qu'il s'est proposé à notre égard et pour sa gloire. Mais pas forcément pour nous châtier. Pas forcément. Pas forcément en conséquence d'un péché. Alors, le Seigneur veut tirer le son de ces deux événements qu'il connaît bien, dont il a été informé. Et je pense, entre parenthèses, que quand nous nous adressons à un auditoire composé de personnes incrédules, eh bien, il faut être au courant des événements de ce monde. Il faut pouvoir leur en parler, il faut pouvoir appuyer la présentation de l'Évangile sur ce que nous connaissons du Rwanda ou de Sarajevo. Cela fait partie du monde dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Ce sont des réalités concrètes dont le Seigneur a su se servir dans le premier paragraphe du chapitre 13, et de la même manière, nous aussi, nous pouvons profiter de telle ou telle catastrophe pour dire aux âmes, attention, attention, c'est un appel à votre repentance. Dieu ne juge pas des pécheurs particulièrement dans cette catastrophe, mais cela doit vous servir pour être attentif et vigilant quant à la repentance que Dieu ordonne. Dieu ordonne à tous les hommes quand ils se repentent, chapitre 17 des Actes, verset 30. Vous êtes sous le coup de cet ordre de Dieu. Chère âme inconvertie, encore morte dans vos fautes et dans vos péchés, sous le coup de l'ordre de Dieu, tout en sachant bien. Il y a un passage qui contrebalance Actes 17. C'est ce que nous avons dans l'Épître aux Romains au chapitre 2, à savoir que la bonté de Dieu vous pousse à la repentance. Il y a non seulement un ordre, mais il y a aussi la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que vous êtes ici ce soir, parce que Dieu voulait vous rencontrer et vous dire que dans sa grâce, il vous pousse à vous repentir. Pourquoi se repentir? On est assez satisfait de soi. Jeune homme, jeune fille, personne plus âgée, assez satisfait de sa vie. Oui, on a commis quelques péchés, mais d'autre part, on a fait tellement de bonnes actions que puisque Dieu est bon et qu'il est juste, il va tenir compte des unes et des autres et il nous acceptera. Ça, c'est un raisonnement qui vous est propre, mais qui n'est pas le raisonnement de Dieu. Dieu vous déclare exactement, d'une manière précise, aussi précise qu'une eau forte, ce qu'il pense de vous, de tout homme. Quel homme que vous soyez, c'est au début des microbes. Les trois premiers chapitres, les chapitres vont vous révéler de manière précise ce que Dieu pense de vous, de tout homme. C'est quand même remarquable qu'un président de tribunal, c'est une comparaison, ait la bonté et l'amour de dire ce qu'il pense de celui qui va comparaître tout à l'heure devant lui, comme un prévenu. Est-ce que cela existe dans le monde? Sûrement pas. Mais Dieu, dans sa grâce, avertit tout homme. Il n'y a pas un juste, non, pas même un seul. Il n'y a aucun qui ait fait le bien. Et dans sa bonté. Et c'est la suite de l'Épître aux Romains qui nous le dit. Et nous vous conseillons de lire ces trois premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Et nous sommes sûrs que vous ne vous arrêterez pas à ce chapitre 3, que vous continuerez. Vous aurez soif de savoir le reste. Eh bien, dans sa bonté, le président du tribunal, c'est une comparaison, je le répète, vous donne le secret pour ne pas être condamné. Il vous dit, voilà, vous aurez un signe, quand vous passerez devant moi, vous aurez une rose à la boutonnière. Et cette rose, qu'est-ce que c'est le sang de Christ. Si vous êtes à l'abri de ce sang de Christ, si vous avez ce signe sur vous, ce sang de Jésus-Christ, son Fils, qui nous purifie de tout péché, eh bien, vous passerez de la mort à la vie, vous échapperez à la condamnation, vous ne périrez pas, vous aurez la vie éternelle. Nous connaissons, pour la plupart ici, bien sûr, ces passages de l'évangile de Jean au chapitre 3. Et nous vous supplions, si vous voulez bien lire Romains, chapitre 1, 2, 3 et suivants, de lire aussi dans l'évangile de Jean ce chapitre 3 et aussi le chapitre 5. Nous vous supplions de lire la parole de Dieu. Parce que vous pouvez dire peut-être que oui, mais tout ça, c'est étranger hein, à moi. Moi, je n'ai pas la foi. Toi qui parles, tu as la foi. Et d'autres ont la foi, mais moi, je n'ai pas la foi. Eh bien, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, au verset 17, il nous est dit que la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Mais alors, encore faut-il connaître et lire la parole de Dieu. Elle est là, entre vos mains, entre nos mains, vous pouvez la trouver partout, même dans les supermarchés. Alors, trouvez la parole de Dieu, lisez-la, lisez Romains, lisez aussi le début de l'Épître aux Éphésiens, et puis l'Évangile de Jean, et vous verrez ce qu'il y en est, et vous verrez que vous serez amené devant le Dieu juste et saint à vous repentir de cet état de péché qui est le nôtre. Non seulement nos différents péchés que nous avons commis Ça, c'est relativement facile de dire oui, c'est vrai, j'ai menti, je me suis mis en colère, de reconnaître toutes ces mauvaises actions qui ont émaillé notre vie, ou ne serait-ce que la journée précédente ou cette matinée. Oui, mais confesser qu'on est pécheur, que par nature on est pécheur, qu'on est le premier pécheur. Y aurait-il même un croyant ici qui ne pourrait pas dire qu'il était le premier des pécheurs? Il estime qu'il y a pire que lui. Si on estime qu'il y a pire que nous, c'est que dans le fond de nous-mêmes, nous nous estimons un tout petit peu. C'est qu'il y a au fond de nous-mêmes un peu de propre justice. Ce n'est pas l'attitude qui convient devant Dieu. Ce n'est pas la vraie repentance. La vraie repentance consiste à dire, comme Pierre, dans chapitre 5 de Luc, se jetant aux genoux du Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. C'est encore au chapitre 18 de ce même évangile, le publicain qui monte au temple aux côtés du pharisien, qui n'ose même pas lever les yeux vers le ciel et qui dit, ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Ils sont allés au fond de leur propre nature. Et nous avons toujours besoin de considérer ce qu'est notre nature, je parle pour les croyants, notre vieille nature devant Dieu. Et ne pas penser qu'il y a un pouce, un millimètre, un micron de bien en nous. Tout est misère, tout est linge souillé. Repentez-vous. C'est le secret. On peut vous présenter Jésus comme celui qui va vous donner la paix, le bonheur, qui va arriver dans votre vie pour réparer votre couple, pour réparer votre vie qui a été gâchée jusque-là. Oui, c'est vrai, oui, oui, mais dans un deuxième temps. D'abord, de manière essentielle, fondamentale, et cruciale, c'est l'état de vie, cruciale, c'est la repentance. Il faut en arriver là. Il y a quelque temps, avec un frère, nous vivons un couple, de 70 ans peut-être, d'origine catholique, et qui s'intéressait à la parole. Au point que ils se posaient des questions sur l'Apocalypse, et nous étions allés vers eux avec un livre au sujet de l'Apocalypse. Et puis au bout de 15 ou 20 minutes de conversation, on s'est aperçu d'une chose, c'est que ces gens ne savaient pas. Ils étaient pécheurs. Il n'y avait rien de bon en eux. Ils pensaient que comparaissant devant Dieu, eh bien, il y aurait certaines choses qui seraient retenues de leur vie. C'est vrai que ça avait été des gens honnêtes et travailleurs. Et ils pensaient que sur la base de ce qu'ils étaient, Dieu les recevrait. Alors, on les a détrompés, on les a peut-être déçus, parce qu'on leur a dit, mais non, c'est pas l'Apocalypse qu'il vous faut, c'est l'Épître aux Romains. Le début de l'Épître aux Romains. Et la suite. Évidemment, cela ne plaît pas à l'homme. Cela ne plaît pas à la nature humaine. D'avoir besoin de se repentir envers Dieu. Parce que à cette repentance, il suit une chose, c'est qu'on sait, l'homme qui se repent sait qu'il est perdu. Ah voilà, voilà le maître mot. Perdu devant un Dieu juste et saint. Et dans Actes 17, versets 30 et 31, il est parlé de ce jugement qui va s'abattre sur la terre habitée tout entière. Pour un homme qui est mort encore dans ses fautes et dans ses péchés, c'est pas tellement la question de la mort physique. Il attend, qui est le point important, qui est le point le plus important. C'est pas tellement ça. C'est la pensée du jugement. Si vous ne vous convertissez, si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur, eh bien vous allez droit au jugement et aux peines éternelles, vous comparaîtrez devant le grand trône blanc dont nous parle le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Bien sûr, chers amis, nous sommes désolés de vous dire cela, de vous dire que vous allez comparaître devant ce grand trône blanc et que vous n'avez pas accepté Christ pour votre compte et pour votre sauveur, eh bien vous serez jetés dans les temps de feu et de soufre. Je regrette de vous dire cela, mais c'est dans la parole, et c'est pas moi qui parle, c'est Dieu. Et il dit qu'il vous avait fait venir ici ce soir parce qu'il avait quelque chose à vous dire, parce qu'il voulait vous rencontrer, il voulait vous rencontrer pour vous dire ceci, c'est que, après la mort, il y a le jugement. La mort, dans le fond, c'est peu de choses. Beaucoup des hommes l'acceptent, bien beaucoup d'hommes l'acceptent, comme quelque chose d'inéluctable, ils savent qu'ils ont vécu, ils voient les cimetières. Mais après la mort, c'est le jugement, et c'est cela qui est terrifiant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il ne périsse pas. Parce que la comparution devant le grand trône blanc et le fait qu'on est jeté dans les temps de feu et de souffle, c'est cela périr, c'est cela périr. Eh bien, il a donné son Fils afin que vous ne périssiez pas, mais que vous ayez la vie éternelle. Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous par exemple. C'est une parole solennelle, d'abord parce qu'elle est dans la parole de Dieu, et puis d'une manière plus précise, elle est dans la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La repentance. La repentance pour le peuple juif, la repentance pour l'incrédule, la repentance pour le croyant. Ne pensez-vous pas que la partie adverse, nous l'avons dans l'Apocalypse, avec le Seigneur qui est là, au milieu des sept lampes d'or, avec ses caractères judiciaires dont tous les détails nous sont donnés dans le premier chapitre. Et qu'est-ce qu'il dit à Sainte Assemblée? Qu'est-ce qu'il dit? Repends-toi. Voilà la partie adverse qui dit à Éphèse, j'ai contre toi. Que tu as abandonné ton premier amour, repends-toi. À Pergame, repends-toi. À Thyatire, repends-toi. À Sardes, repends-toi. À Laodicée, repends-toi. Seuls deux assemblées. Et chaque tour propre, et chaque à cette exhortation à la repentance, c'est Smyrne. Parce qu'elle en a assez avec ses tribulations et avec ses souffrances. Et Philadelphie, qui n'a pas renié le nom du Seigneur, qui a gardé la parole. Qui a peu de force, mais qui est fidèle. Et dans Philadelphie, je le dis en passant, parce que c'est une pensée qui nous touche. Bien sûr, Philadelphie, on connaît, c'est l'amour des frères, tout le monde sait cela, signification du mot même. On sait ce que nous avons rappelé, sa fidélité, n'a pas renié le Seigneur, etc. Mais il y a quelque chose. C'est que le Seigneur amènera ceux qui sont de la synagogue de Satan et qui se disent être juifs et ils mentent, il conduira ces hommes à se prosterner devant Philadelphie, disons-le encore exactement pour ne pas nous tromper. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan, Apocalypse 3, verset 9. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner dans tes pieds. Et ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Voilà le témoignage de Philadelphie. Voilà l'essentiel. Voilà le principal. Ses caractères, oui, c'est bien, on les connaît bien. Mais l'amour de Jésus, l'amour de Christ, l'amour du Seigneur, manifesté au travers de cette vie d'assemblée, et manifesté aux yeux de ces menteurs. Même si lenteurs sont obligés de reconnaître qu'il y a là l'amour du Seigneur, ils connaîtront que moi je t'ai aimé. C'est la colonne, l'axe, c'est le point central du témoignage. Et on revient à Malachie. Je vous ai aimé. C'est vrai que les caractères du peuple de Juda et des Lévites dans Malachie ne sont pas, sont loin d'être les caractères de Philadelphie. Mais cela nous amène à dire qu'il y a quelque chose qui ne change pas. Au travers des hauts et des bas, au travers des points de fidélité et des manquements, c'est l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Christ. Voilà, chère âme, celui qui voulait vous rencontrer ce soir. Celui qui vous aime. Dans un monde où tout est haine, violence, corruption, il y a quelqu'un qui vous aime, et pas n'importe qui, Dieu. Celui qui a fait les cieux et la terre, Dieu le Créateur, mais aussi Dieu le Rédempteur, le Saint et le Juste. Il a été tellement saint et juste qu'il y a eu Golgotha. Qu'est-ce que ça veut dire, Golgotha? C'est la croix de Christ. C'est le point où justement la sainteté et la justice de Dieu ont été magnifiquement révélées, manifestées de manière éclatante. Le Fils précieux, l'homme Christ Jésus, a été crucifié. Il a fallu qu'il porte sur ses épaules, sur sa tête sainte, tout le poids de la colère d'un Dieu juste et saint.